Depuis sa naissance à Paris en 1534, l'ordre des Jésuites suscite des fantasmes complotistes. D'un siècle à l'autre, les accusations se répètent contre cette congrégation catholique. Avides de pouvoir, les Jésuites agissent dans l'ombre. Ils dirigent le monde et déclenchent les guerres. Ils manipulent les rois et choisissent nos présidents. Henri IV, Lincoln, Kennedy. Aucun de ceux qui ont essayé de résister à leur emprise n'y a survécu. Ils assassinent leurs ennemis, volent les héritages des veuves, lavent le cerveau des enfants. Après 4 siècles à comploter dans les coulisses, ils ont enfin placé l'un des leurs à la tête du Vatican. Depuis Rome, le pape François organise l'invasion migratoire de l'Occident. À l'origine de ce mythe jésuite, on retrouve une série de textes et de pamphlets. Parmi eux, un ouvrage se distingue. Les Monita Secreta, les instructions secrètes. Pour comprendre son succès et son influence, l'historien de la littérature Michel Leroy nous emmène dans l'Europe du XVIe siècle. Mécanique du complotisme. La conspiration jésuite. Épisode 1. La naissance d'un mythe.
Yo Íñigo de Loyola, humilde siervo de Dios, para salud de las almas. Compañía de Jesús, pues es Jesús nuestro capitán.
Sí, padre. Compañía de Jesús.
Au XVIe siècle, l'Église est en pleine décadence. Les prêtres n'assurent plus leur mission. Les évêques courent après les honneurs. Les papes autorisent les fidèles à racheter leurs péchés contre de l'argent versé au Vatican. Luther part en guerre contre ces dérives. C'est la naissance du protestantisme.
Rome est un cirque. Un vrai cloaque. On peut tout acheter, sexe, salut. Il y a des lupanards, rien que pour le clergé. Il y a des rumeurs sur le Saint-Père lui-même. Qu'il est assoiffé de pouvoir.
Déterminé à redorer l'étendard de l'Église et à la sauver de la concurrence protestante, un petit groupe d'étudiants catholiques se retrouve en 1534 à Paris.
Corpus Christi. Amen.
Guidés par Ignace de Loyola, un noble espagnol, ils font le vœu de Montmartre. La compagnie de Jésus est née. On les appellera les Jésuites. Érudits, dévoués, déterminés et organisés, ils rencontrent un grand succès. Les nouveaux membres affluent. Mais à mesure que la compagnie de Jésus s'agrandit, leurs adversaires se multiplient.
Très vite, la compagnie de Jésus est critiquée. Elle est critiquée par ses innovations au sein de l'Église. Un certain nombre d'ordres existants déjà, je pense aux dominicains, aux franciscains, ne voient pas vraiment la nécessité d'un nouvel ordre. Ils pensent qu'il vaut mieux renforcer les ordres existants plutôt que de créer cette société de Jésus. Et puis, n'oublions pas que, étant le fer de lance de la réforme catholique, face au protestantisme, en particulier en terre germanophone, les jésuites vont faire face à la contre-offensive des protestants. Et les premiers pamphlets anti-jésuites apparaissent justement en allemand et en terre allemande.
Und zwar soll dies unter dem Siegel der Verschwiegenheit geschehen und so, als ob dieselben nicht von einem anderen verfasst wären, sondern aus der eigenen Erfahrung des Mitteilenden hervorgegangen wären.
Hostilité aussi du fait que très vite la compagnie de Jésus va se consacrer à l'enseignement, parce qu'ils ont compris qu'il fallait former de nouveaux clercs, mais aussi des chrétiens qui pourront ensuite diffuser la bonne parole. Et ils vont commencer à ouvrir des collèges, d'abord en Sicile, puis ensuite dans le nord-est de la France. Bien sûr, ils vont se heurter à ce moment-là au type d'enseignement qui est en place. La Sorbonne verra d'un très mauvais œil ces collèges qui vont s'établir. Les premiers pamphlets hostiles aux jésuites sont écrits en particulier pour défendre l'université de Paris contre ces nouveaux venus qui sont en train d'établir des collèges. Donc un enseignement qui dérange et concurrence les types d'enseignement qui existaient déjà.
Requête de l'Université de Paris du 18 avril 1594. Ils enseignent la jeunesse. À quoi faire ? À désirer et souhaiter la mort de leur roi. Sire, c'est trop patienter, c'est trop endurer ces traîtres, ces assassins, au milieu de votre royaume. Seigneur, Il vous plaise ordonner que cette secte sera exterminée et chassée, non seulement de la dite université, mais aussi de tout le royaume de France. »
L'hostilité aussi va venir du fait que l'ordre des jésuites dépend du pape. Or, face à des États qui sont en train de se constituer, on ne peut pas encore parler d'esprit national, c'est peut-être trop fort, mais les administrations royales se développent et les jésuites, passant pour la milice du pape, vont être regardés avec beaucoup de méfiance par toute cette nouvelle administration qui vont dire que cette compagnie de Jésus est en train de porter atteinte aux libertés gallicanes.
Les gallicans qui souhaitent à l'époque que l'Église française soit autonome du pape, mais ça va donc passablement irriter la hiérarchie catholique française qui se sent court-circuitée par les jésuites.
Et d'autant plus qu'ils ne dépendent pas des évêques, et les évêques eux-mêmes verront d'un assez mauvais œil ces jésuites qui apparaissent comme des francs-tireurs et dépendants du pape. C'est aussi une des sources de cette hostilité qui va être nourrie contre les jésuites.
Dans l'hostilité aux jésuites, il y a un élément à la fois important et étrange. On les accuse souvent de vouloir tuer les rois.
Le dossier du jésuitisme est encore accru parce qu'il y a une accusation extrêmement lourde qui a été portée contre les jésuites, c'est celle de régicide. Depuis l'attentat du moine Jacques Clément qui a tué Henri III jusqu'à l'attentat de Damien qui a épargné Louis XV, en passant par l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, on va à chaque fois dire « les jésuites sont responsables ». On va dire « bah oui, mais Jean Châtel est un ancien élève des jésuites ». Ravaillac, ah oui, mais c'était confessé à un jésuite.
Qui t'a donné l'ordre d'assassiner le roi ?
Dieu.
Dieu ! Et qui d'autre ?
La Vierge Marie.
Tu sais ce qu'on réserve aux régicides ?
La vie éternelle quand les rois sont des tyrans.
C'est l'enfer qui t'attend.
Et d'ailleurs, les jésuites seront expulsés de France et interdits pendant 10 ans après le premier attentat contre Henri IV. D'où viennent ces accusations ?
Le laxisme qui est attribué aux jésuites, dans leur théologie morale, va jusqu'à leur attribuer la possibilité de légitimer l'assassinat. Du coup, on va dire, mais voyez, les jésuites autorisent le vol, l'assassinat et toutes sortes de méfaits parce qu'ils l'excusent.
Depuis qu'ils rencontrent le succès, les jésuites sont attaqués. Morale relâchée, encouragement au meurtre, manipulation des princes, les rumeurs rivalisent de malveillance. C'est dans cette atmosphère de paranoïa que paraît un texte qui vient confirmer toutes les craintes de leurs adversaires, les Monita Secreta. Écrit par un de leurs membres polonais en 1614, les révélations qu'il contient sur la véritable nature des jésuites vont faire le tour de l'Europe.
Portisque ex professas ea tantum communicente alica deis instruant.
Monita Secreta, instruction secrète. Monita Secreta, instruction secrète.
Le texte va connaître une certaine fortune, parce que il entre en résonance avec la multitude des textes et des controverses qui sont dirigées contre les jésuites, c'est écrit en latin, et il est censé donner un certain nombre de conseils aux jésuites pour, par exemple, s'attirer des bonnes grâces, des veuves riches, pour attirer dans les collèges les jeunes gens bien nés et surtout bien rentés. Comment aussi attirer les bonnes grâces des grands, des nobles, en suscitant éventuellement des conflits entre eux pour ensuite se donner le beau rôle en les réconciliant. En somme, on donne à ce texte la valeur d'une révélation. Et nous avons réussi à trouver dans les bibliothèques des jésuites ce texte qui révèle leur vraie nature. Vous voyez, ils le disent eux-mêmes.
Monita secreta, instruction secrète. Entretenir les divisions entre les grands,
afin qu'ils aient recours à la médiation de la société. Il faut faire tous nos efforts pour gagner partout l'oreille et les esprits des princes et des personnes les plus considérables, afin que qui que ce soit n'ose se lever contre nous, mais au contraire, que tous soient obligés d'en dépendre.
Donc le texte est rédigé de façon à faire croire qu'il a été écrit par le supérieur général des jésuites, c'est-à-dire leur chef.
On sait qu'il l'a écrit, puisque c'est un certain Jérôme Zahorowski, membre de la Société de Jésus, qu'il n'avait pas connu le sort qu'il espérait en entrant dans la compagnie. Il avait des comptes à régler avec la compagnie. Il avait écrit des lettres anonymes où déjà il disait du mal des jésuites. Très clairement, il a écrit ce texte qui s'appelle « Limonita privata ». La première édition datant de 1614 étant publiée à Cracovie. Très vite, on va avoir d'autres éditions qui vont paraître à Paris, qui vont paraître en Bohême, de nouveau à Cracovie. En 1654, le titre de « Moneta secreta », donc d'avertissement, d'instruction secrète, est définitivement adopté. Et à la fin du XVIIe siècle, il y a déjà eu 22 éditions dans toutes les langues de l'Europe.
Ce qui est intéressant avec ce faux texte, c'est qu'il s'enrichit avec les années. Au fur et à mesure qu'il circule, on lui rajoute de nouveaux chapitres et de nouvelles accusations inventées.
Dans le chapitre 17 qui a été rajouté, on voit une dimension davantage politique qui intervient plus tardivement, sans doute parce que l'on s'est dit que c'était là qu'il fallait porter le fer.
Exciter des guerres pour avoir occasion de les apaiser et d'en être récompensé par des bénéfices et des dignités ecclésiastiques. Enfin, la société, après avoir gagné la faveur et l'autorité des princes, tâchera, à défaut d'amour, d'inspirer la crainte.
L'index condamne les Moneta Secreta dès 1616.
L'index, c'était la liste des livres interdits par l'Église, qui veut dire que le Vatican reconnaît officiellement le texte comme un faux. Est-ce que Rome va punir son auteur ?
L'auteur est à peu près identifié, donc Jérôme Zahorowski. On instruit contre lui, il est entendu, il n'avoue pas en être directement l'auteur, mais il reconnaît que les Moneta Secreta n'émanent pas de la Société de Jésus. Ensuite, on perd un peu sa trace, il devient curé quelque part en Pologne. On sait qu'il meurt en 1634, il ne fait plus guère parler de lui. Bon, on ne peut pas dire qu'il a été poursuivi par la vindicte de la Société de Jésus, qui s'est contentée de sa rétractation.
Démasqué, l'auteur des Moneta Secreta meurt en 1634. Malgré ses aveux, son texte continue à circuler dans toute l'Europe. L'Église condamne l'ouvrage. Mais depuis l'invention de l'imprimerie, le contrôle de la diffusion des idées lui échappe. Avec d'autres pamphlets, les Moneta Secreta continuent à forger la légende noire des jésuites. En 1773, le pape cède à la pression des monarques européens. Il supprime la Compagnie de Jésus. Mais, dans la Russie orthodoxe et la Prusse protestante, loin de l'autorité papale, les jésuites trouvent refuge. L'Europe n'en a pas fini avec les jésuites. Ils reviendront, mais pas seuls. Désormais, les théories complotistes les accompagneront partout. Les Moneta Secreta inspireront bien d'autres textes. Mécanique du complotisme, la conspiration jésuite. Un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duterre.